Donc j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter Jean de Saint-Cheron, qui est parisien. Est-ce qu'on a des parisiens ici ? Très bien. Pour les autres comme moi qui viennent de la province, soyons miséricordieux avec les parisiens. Bon, j'arrête la polémique. Alors, Jean de Saint-Cheron, il est diplômé de Sciences Po Paris, de la Sorbonne. Mais ce qui nous intéresse, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est très impliqué dans la presse catholique, à KTO, chroniqueur à la Croix, au Figaro, à Radio Notre-Dame. Et il est directeur du cabinet du recteur de l'Institut catholique de Paris. Donc, Jean, tu es très présent dans le milieu universitaire et dans la presse. Tu as publié plusieurs livres, mais les deux qui nous intéressent aujourd'hui et dont tu vas parler, d'abord, c'est « Éloge d'une guerrière » pour parler de Sainte-Thérèse de Lisieux, ce qui est original parce que c'était une carmélite chez Grasset. Et voilà ce que c'est que la foi, un petit livre sur Pascal que tu as publié à Salvator. Donc, c'est deux livres que vous pourrez retrouver aux dédicaces juste après. Donc, on aura un temps de questions à la fin de son intervention, qui va durer trois quarts d'heure environ. Mais bien sûr, toutes les questions ne pourront pas être posées, j'imagine. Donc, vous pourrez le retrouver au stand qui est de l'autre côté du sanctuaire, à côté du point info, où vous avez des tentes avec les livres et les dédicaces. Voilà toute la présentation que j'avais, mais je veux quand même vous dire que, bon, déjà, Jean est né en 1986, donc il est relativement jeune quand même. Et surtout, ce qui m'a fait sourire, si tu me permets de le dire, c'est qu'il va vous parler de « L'amour est un combat ». Et il s'est marié ce mois-ci. Donc, vous convenez avec moi qu'on peut dire qu'il est entré dans l'arène. Voilà.
Je vous rassure tout de suite, pour le moment, le combat n'est pas trop douloureux.
Moi, je ne peux pas parler de ce combat-là non plus. Tu parleras avec les messieurs ici plus tard. Bon, applaudissements pour Jean de Saint-Cheron et je vous laisse avec lui. Merci.
Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là pour entendre parler de la petite Thérèse que j'imagine vous connaissez au moins aussi bien que moi. Mais néanmoins, je vais essayer de vous dire des choses qui ne vous endormiront pas en ce milieu d'après-midi. En tout cas, Thérèse doit être ravie de nous savoir avec elle cet après-midi, parce qu'elle était très sensible à la météo, comme vous le savez peut-être. Donc, je suis persuadé que c'est par son intercession, en grande partie, qu'il fait si beau aujourd'hui à Lourdes. Et en tout cas, on me dit souvent, tiens, c'est étonnant, est-ce que c'est simplement pour vendre des livres, vendre du papier que tu as donné comme titre à ton livre sur Sainte Thérèse, Éloge d'une guerrière, parce que c'est vraiment pas là que nous l'attendions, Éloge d'une toute petite fille, Éloge d'une vendeuse de roses aurait été peut-être plus adapté, que nenni, me semble-t-il, et je vais essayer de vous montrer pourquoi et comment. En tout cas, Thérèse Martin a manié et manie comme personne l'art du contre-pied. Elle nous prend toujours à contre-pied, elle est toujours là où nous ne l'attendions pas. Et je crois que c'est précisément l'une des grandes qualités des plus grands guerriers qui sont capables de prendre l'ennemi à revers, mais aussi des très grands théologiens qui manient le paradoxe pour nous surprendre. Et non pas simplement pour le plaisir de nous surprendre, mais toujours pour nous montrer et nous réapprendre que l'Évangile ne répond pas à notre logique humaine et que donc l'Évangile nous surprend sans cesse parce que nous sommes en permanence déplacés, secoués, parfois même dérangés par ce que nous entendons, en particulier dans la bouche de Jésus. On a souvent dit des théologiens ou des auteurs spirituels ou voulu faire dire d'eux qu'ils étaient des provocateurs, mais je crois que s'il y a bien un provocateur en chef dans l'histoire du catholicisme, c'est le Christ lui-même, et il suffirait de rouvrir les évangiles et en particulier de relire ses adresses aux pharisiens et à leur hypocrisie pour s'en convaincre. En tout cas, la petite Thérèse dont nous parlons aujourd'hui manie elle aussi l'art du contre-pied. Alors ça peut être évidemment, comme je le disais, pour, merci beaucoup, pour déstabiliser l'adversaire, mais c'est aussi, je crois, pour nous révéler que les choses sont souvent plus complexes, plus compliquées que prévues et que nous avons du mal à les comprendre. Je vous donne un petit exemple thérésien. On connaît tous par cœur la phrase de Thérèse au seuil de la mort, à l'infirmerie du Carmel, alors qu'elle a 24 ans, « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Le problème, c'est que si on en reste à cette phrase, qui évidemment est très belle et très élevée, on se fait une fausse image de ce qu'est Thérèse, de qui était Thérèse. Parce qu'il ne faut pas oublier que, saisie par la profondeur de son esprit spirituel, évidemment, elle est capable de prononcer des phrases aussi gonflées d'espérance et aussi justes théologiquement que celle-là, mais quelques heures plus tôt, elle se lamente de la souffrance, elle se plaint. Quelques jours plus tôt, elle dit, en regardant sa sœur Pauline, « Vais-je savoir mourir ?» Elle est saisie d'angoisse. En réalité, la mort de Sainte Thérèse, contrairement à ce qu'on voudrait faire croire ou ce qu'on a voulu faire croire, n'est absolument pas une petite évidence délicieuse ou une promenade du dimanche après-midi. Elle a aussi dit, peu de temps avant de mourir également, « Je sens que je vais entrer dans le repos. » Et elle enchaîne au même moment, le même jour, à la même heure, « Mais je sens surtout que ma mission va commencer. » Nouveau paradoxe thérésien. Alors, le repos ou la mission? Il faudrait savoir. En réalité, Thérèse a compris le cœur même du christianisme, c'est-à-dire que ce qui nous procurera le repos et le bonheur, c'est précisément de faire ce que le Seigneur attend de nous, ce qu'elle appelle sa mission. Et en l'occurrence, on pourrait dire, mais que pourrait faire une toute petite fille de 24 ans au bord de la mort dans son Carmel? Elle dit que sa mission, à ce moment-là, va être de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime, de donner ma petite voix aux âmes. Voilà. Et je voudrais, bien modestement, à ma modeste place, participer un tout petit peu cet après-midi avec vous à la mission de Thérèse, qui avait tellement envie, depuis le ciel, de vous communiquer sa petite voix. Qu'est-ce que c'est que sa petite voix? Eh bien, précisément, si j'ose parler de Thérèse comme d'une guerrière, c'est sa technique de combat, et on va le comprendre. Et Thérèse a mis en place tout un plan, en racontant en particulier l'histoire de sa vie, pour faire connaître sa technique de combat, sa petite voix, comme elle dit. Mais qu'est-ce que c'est que cette petite voix? Alors, comme vous le savez, Thérèse a vu le jour en 1873, le 2 janvier, dans une famille très heureuse, très chrétienne. Elle est la toute petite dernière. Elle voit le jour donc, dans un foyer très aimant entre Louis et Zélie, ses parents chéris. Et puis, elle est sous le regard maternel, maternant même, de ses quatre grandes sœurs, complètement gaga d'elle, Marie, Pauline, Léonie et Céline. Et l'enfance de Thérèse, vue de loin, est l'enfance heureuse par excellence. Elle est dans une famille, donc, je l'ai dit, très chrétienne, très aimante, très choyée. Elle ne manque de rien sur le plan matériel, parce que les Martins sont de la bonne bourgeoisie, comme vous le savez. Louis avec son horlogerie, et puis Zélie avec son commerce de dentelle d'Alençon. Et on pourrait se dire, évidemment, c'est facile de se sentir aimé par le bon Dieu quand on a grandi, élevé par un couple de saints, entouré de l'amour de quatre grandes sœurs qui nous précèdent, et puis en plus sans avoir connu ni les affres de la guerre, ni le dépouillement matériel, ni de grosses maladies graves. Et bien pourtant, dès les premières années, Thérèse fait montre d'une réelle insatisfaction. Elle n'arrive pas à être heureuse, cette petite fille. Elle a un an et demi, deux ans et demi, trois ans. Et sa mère même, Zélie, témoigne dans de nombreuses lettres que Thérèse est une petite fille très difficile, très capricieuse, hypersensible, qui se met dans des états pas possibles pour des broutilles. Il suffit d'avoir égaré une petite bague en plastique, d'avoir percé un paquet de bonbons pour qu'on ait l'impression qu'on lui a littéralement arraché le cœur. Elle se roule par terre, elle est suffoquée, personne ne peut la calmer. On pourrait se dire, bon, toutes les petites filles sont comme ça. Que Nenni, puisque Zélie en a élevé quatre avant elle, et qu'elle voit bien que chez Thérèse, ces crises, cette insatisfaction, cette hypersensibilité est très particulière. Elle ne correspond pas à ce qu'elle a vu, ce qu'elle a constaté chez ses autres filles. Alors on pourrait se dire, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire simplement que Thérèse est une enfant insupportable? Sans doute en partie, mais pas seulement. Je veux y voir personnellement la marque, déjà, avant 4 ans, de l'immensité de son désir. Qu'est-ce que j'entends par ça? C'est-à-dire que le fait qu'elle se sait faite pour le bonheur. Bon, ça, nous le savons tous, nous recherchons tous le bonheur. Le grand Blaise Pascal, très thérésien par certains aspects, ou peut-être que c'est l'inverse qui est vrai, comme il a vécu 200 ans avant elle, mais en tout cas, disait « tous les hommes recherchent d'être heureux ». Voilà. C'est là notre seul but, notre seule occupation, c'est de chercher le bonheur, quoi que nous disions. Quoi que nous voulions faire croire même parfois. En réalité, toutes nos actions ont pour but le bonheur parce que c'est pour cela que nous sommes faits. Donc évidemment, nous agissons pour ce pourquoi nous sommes faits. Simplement, parfois, nous nous trompons. Nous cherchons le bonheur là où il n'est pas. Alors nous croyons de bonne foi trouver le bonheur. Parfois, même dans le péché, nous croyons trouver le bonheur. Mais ce n'est pas là qu'il a. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nos démarches, tout ce que nous faisons, nos actions, témoignent du fait que nous recherchons le bonheur. Et Thérèse, elle, très tôt, et c'est là peut-être ce qui la distingue de beaucoup de petites filles de son âge, c'est qu'elle, très tôt, a compris cette vocation au bonheur. Et donc, très tôt, elle est frustrée, elle est insatisfaite, parce qu'elle voit bien que cette existence qui est la nôtre, ici-bas, sur cette planète Terre que nous aimons bien malgré tout, ne correspond pas au grand bonheur auquel nous aspirons. Et très tôt, Thérèse va parler de la Terre comme d'un lieu d'exil, comme de la vallée des larmes. Alors évidemment, elle n'invente pas ces termes, elle les entend dans toutes les prières de l'Église catholique, en particulier dans le Salve Regina, qui parle à la fois d'exil et de vallée des larmes. En tout cas, elle voit bien qu'elle n'est pas ici à sa place et elle est capable de le voir même dans les toutes petites choses. Alors on pourrait dire que c'est une enfant pourri gâtée qui est capable de penser qu'elle sera mieux au ciel ou qui a hâte du ciel simplement parce que son goûter pendant la promenade a été écrasé au fond d'un panier. Mais en réalité, alors c'est vrai, elle est capable de se mettre en rogne pour des choses aussi minuscules que cela, pour une tartine de confiture. Mais en même temps, c'est aussi parce qu'elle a la haute conscience du fait qu'au ciel, mais même des problèmes de tartine de confiture écrasés au fond d'un panier, il n'y en aura plus. C'est-à-dire que, et si elle a le blues du dimanche soir, je ne sais pas si vous êtes certains, comme moi, à être victime de cette terrible maladie qu'est le blues du dimanche soir, en fait, si Thérèse, très tôt, dès l'enfance, est prise par le blues du dimanche soir, c'est parce qu'elle dit, elle écrit, que nous sommes faits pour un dimanche sans couchant. Un dimanche sur lequel le soleil ne se couchera jamais parce que ce sera le jour du Seigneur éternel. Et le jour du Seigneur, qu'est-ce que c'est? C'est le repos, c'est la joie, c'est la gaieté avec ses sœurs avec lesquelles elle joue dans les champs. Voilà. C'est ce pourquoi nous sommes faits, ce à quoi nous aspirons. Quel est donc le sens plus profondément de tout cela, de cette découverte du grand désir et de la grande vocation humaine dans le cœur de cette toute petite fille? C'est qu'en réalité, la place vide qui se trouve dans notre cœur, dans chacun de nos cœurs, le gouffre immense aussi dont parlait Pascal encore une fois, est la marque de notre vocation qui n'est pas encore remplie. Parce que quelle est notre vocation? Je ne vais pas vous faire tout un sermon là-dessus, vous le savez aussi bien que moi, c'est la vocation à la sainteté. Le magistère de l'Église le répète depuis 2000 ans. Et malgré tout, nous ne devenons pas saints. En tout cas, nous avons du mal à devenir saints. Est-ce que même nous désirons réellement être saints? En tout cas, Thérèse va saisir de manière très nette que ce gouffre en elle, c'est le désir d'une vocation immense. Alors évidemment, elle va être frappée d'un drame énorme qui sera quand même plus grave qu'une tartine de confiture écrasée au fond d'un panier à l'âge de 4 ans puisqu'elle va perdre sa mère, sa chère Zélie va être emportée par un cancer. Je tiens d'ailleurs à relever que Zélie avait été emmenée en pèlerinage à Lourdes quelques mois avant sa mort. Thérèse étant trop petite, elle avait à peine 4 ans, elle n'avait pas pu accompagner sa mère. Mais Zélie était venue ici en pèlerinage, elle n'avait pas été guérie, mais on ne peut pas décemment croire, si l'on a la foi, qu'elle n'ait pas reçu des grâces immenses qui ont été peut-être aussi transmises à ses enfants, et en particulier à la petite Thérèse qui s'inquiétait tellement de voir sa mère partir si tôt. Et en tout cas, voilà, la place vide, le gouffre de cette vocation va mettre du temps à être identifié par Thérèse comme étant le lieu du combat de l'amour dont nous parlons cet après-midi. Pourquoi ? Eh bien, parce que d'abord, comme nous tous pour le coup, Thérèse est avide de posséder, c'est-à-dire de se servir elle-même. On croit toujours que notre bonheur, et ça c'est, je crois qu'il y a cet élan naturel dans notre cœur, hein, sans doute depuis le péché originel, on croit toujours que notre bonheur, c'est de posséder ce que nous n'avons pas, c'est d'avaler ce que nous désirons, et c'est aussi de prendre la place la plus prestigieuse, la plus confortable, celle qui nous permettra finalement de briller, ou bien en société, certains sont très ambitieux sur le plan social, ou bien sur le terrain de l'argent, ou du plaisir sexuel, ou que ce soit. En tout cas, nous identifions souvent des lieux qui nous conduiraient au bonheur que nous attendons, et qui sont liés à la satisfaction de nous-mêmes. Non seulement de nos besoins, mais dirons-nous de tous nos désirs, nos désirs quels qu'ils soient. Or, le cœur de l'homme étant ce gouffre infini, nous voyons bien que les désirs ne cessent jamais de se renouveler et de surgir. Et quand on a réussi à mettre la main sur l'objet de son désir dont on se dit « enfin, je vais être très heureux », en réalité, un jour, deux jours ou 10 jours plus tard, un nouveau désir surgit dans notre cœur. Et finalement, nous ne sommes jamais rassasiés. Le gouffre, donc, ne se comble jamais. Je vais raconter une petite anecdote qui montre que si vous reprochez d'avoir un tel trait, un tel travers, de n'être jamais rassasié, jamais satisfait, c'est pas très grave parce que Thérèse de Lisieux était littéralement comme vous et elle est non seulement sainte mais docteur de l'Église. Donc ne vous inquiétez pas trop. Je vais vous raconter cette petite histoire très célèbre, mais qu'il est toujours bon de redire, de son enfance. Et je vous lis d'abord le passage que Thérèse écrit elle-même pour raconter ce passage essentiel à la compréhension de qui elle est et au sens de son combat. Un jour, écrit Thérèse, Léonie, pensant qu'elle était trop grande pour jouer à la poupée, vient nous trouver toutes les deux, c'est-à-dire Thérèse et Céline, hein, Céline n'avait que 5 ans de plus que Thérèse, elles jouaient beaucoup ensemble, vint nous trouver toutes les deux avec une corbeille remplie de robes et de jolis morceaux destinés à en faire d'autres. Sur le dessus était couchée sa poupée. « Tenez, mes petites sœurs, nous dit-elle, choisissez, je vous donne tout cela. » Céline avança la main et prit un petit paquet de ganses qui lui plaisait. Après un moment de réflexion, j'avançai la main à mon tour en disant « Je choisis tout » et je pris la corbeille sans autre cérémonie. Bon, geste génial. Vous voyez, elle a son énorme avidité, le gouffre de son cœur qu'elle peine à remplir. Plutôt que de faire comme Céline, qui est sûre de finir insatisfaite puisqu'elle prend simplement trois pauvres bouts de tissu, Thérèse, elle, prend le panier tout entier. Voilà. Elle est avide. Rien ne la satisfera ici-bas. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle ne dit pas « je veux tout », mais « je choisis tout ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on veut tout, on peut finir frustré. Parce que vouloir tout ne signifie pas qu'on obtiendra tout. Alors que si l'on choisit tout, en réalité, on a déjà posé cet acte énorme de se saisir de la totalité de ce qui nous est offert, de ce qui nous est proposé par la vie et en ce monde. Néanmoins, on pourrait se dire, certes, devant un petit panier rempli de morceaux de tissu, on peut tout choisir. Devant l'immensité de notre désir à mesure que nous devenons adultes, il est plus difficile de tout choisir. Pour moi, qui me suis marié il y a 15 jours, par exemple, évidemment, j'ai choisi une femme. Voilà. J'aurais pu peut-être être tenté d'en choisir 2,5 milliards ou 3 milliards, puisque environ la moitié, 3 milliards et demi plutôt, la moitié de la population mondiale est composée de femmes. Mais néanmoins, voilà, l'Église catholique a fixé comme règle étonnante qu'il fallait que j'en choisisse une seule. Est-ce que cela me conduit à finir nécessairement frustré? Bien sûr, non. Mais c'est ce qu'il va falloir essayer de comprendre. Parce que si nous désirons tout, si notre cœur est un gouffre immense, comment alors le comblerons-nous si nous ne sommes pas capables littéralement de tout saisir? Et si notre bonheur ne correspond pas au fait que nous pourrions tout avaler, tout prendre, tout posséder? Comment tout arracher à la vie, tout amasser pour soi-même, tout engloutir? C'est impossible. Il faut donc relire cette petite phrase de Thérèse « Je choisis tout » à l'aune de son génie théologique. N'oubliez pas qu'elle est docteur de l'Église. Elle écrit en effet, 20 ans plus tard, ces lignes à propos du « Je choisis tout ». Ce petit trait de mon enfance est le résumé de toute ma vie. Plus tard, lorsque la perfection m'est apparue, j'ai compris que pour devenir une sainte, il fallait beaucoup souffrir, rechercher toujours le plus parfait et s'oublier soi-même. J'ai compris qu'il y avait bien des degrés dans la perfection et que chaque âme était libre de répondre aux avances de notre Seigneur, de faire peu ou beaucoup pour lui. En un mot, de choisir entre les sacrifices qu'il demande. Alors, comme au jour de ma petite enfance, je me suis écrié « Mon Dieu, je choisis tout. Je ne veux pas être une sainte à moitié. Cela ne me fait pas peur de souffrir pour vous. Je ne crains qu'une chose, c'est de garder ma volonté. Prenez-la, car je choisis tout ce que vous voulez. » Évidemment, le génie extraordinaire de Thérèse aurait été de comprendre que l'unique moyen de passer du « je choisis tout pour moi-même, je choisis tout ce que je désire, je choisis tout ce que je veux », l'unique moyen de passer de cela à un vrai « je choisis tout » pour ne pas finir frustré, précisément, et pour être véritablement heureuse, était de dire au Seigneur « je choisis tout ce que vous voulez ». Et on va essayer de comprendre, parce que là, bon, ça ne fait pas forcément très envie en réalité, hein, d'avoir à renoncer tout ce qui nous attire, tout ce qu'on veut pour nous-mêmes, pour choisir ce que le Seigneur veut. Surtout quand on voit quelle a été la vie de Thérèse, morte à 24 ans de la tuberculose, on n'a pas nécessairement envie de tout choisir comme elle. Mais je crois qu'il faut faire un petit retour en arrière pour comprendre le chemin qui permet de passer du « je choisis tout ce que je veux » à « je choisis tout ce que le Seigneur veut ». C'est ici que se joue le combat de l'amour qui a fait la gloire et la renommée de Thérèse et qui nous permet aujourd'hui, à notre modeste mesure, de l'écouter pour la suivre. Donc Thérèse, je l'ai dit, se sent faite pour de très grandes choses dès la petite enfance. En réalité, c'est une ambitieuse. Elle découvre le fait qu'elle est faite pour de grandes choses et en même temps que la vie ne lui apporte que des larmes. Surtout après le choc de ses 4 ans et de la mort de sa maman chérie. Elle devient donc de plus en plus capricieuse, hypersensible. On peut bien comprendre et imaginer que la mort de sa maman n'a pas calmé son hypersensibilité et ce que beaucoup de psychanalystes ont analysé comme de l'hystérie. Hein. Il y a des thèses qui ont été écrites sur Thérèse de Lisieux hystérique. N'étant pas psychanalyste, ni psychologue, ni psychiatre moi-même, je me garderai bien de trancher la question. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est vraiment difficile et qu'elle, sans doute, est traversée par des névroses terribles, en particulier, je pense, liées au choc de la mort de sa mère. Et puis, vous savez que donc, elle choisira Pauline comme deuxième maman à la mort de Zélie, Pauline, sa grande sœur chérie, et que cette même Pauline rentrera au Carmel en 1882, alors que Thérèse n'a que 9 ans, donc 5 ans plus tard. Évidemment, ça n'arrangera pas les choses. Et là, l'hypersensibilité et le caractère difficile de Thérèse confinent en des difficultés physiques, puisqu'elle tombe terriblement malade, et c'est la fameuse maladie de ses 9-10 ans. Maladie qui a son importance dans le chemin qui lui permettra de découvrir le sens du combat de l'amour. Pourquoi ? Parce que non seulement elle se sait insupportable et capricieuse, et elle voit bien que même à l'école, au collège, etc., les choses ne se passent pas comme il faudrait, elle est très très difficile, mais en plus elle tombe malade. Et quand on tombe malade, on devient un poids pour ceux qui s'occupent de nous. Elle en a une réelle conscience, surtout comme petite fille, où elle devrait plutôt, disons, à l'approche des 10 ans, se mettre à prendre le relais pour les choses matérielles, pour l'entretien de la maison, d'autant que ses grandes sœurs commencent toutes à rentrer en religion. Donc il est bien d'aider Louis, qui est un peu vieillissant dans sa maison, avec les deux petites dernières, Céline et Thérèse. Mais elle est malade. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans son cœur de petite fille? Elle voit que pendant des semaines et des mois, les gens, son entourage proche, donc c'est-à-dire non seulement son père, ses sœurs, mais aussi ses cousines, ses oncles et tantes de Lisieux, s'occupent d'elle avec patience, charité, amour. Elle voit que ses sœurs, en particulier Céline, renoncent pendant de longues heures l'après-midi à aller jouer dehors dans le jardin avec ses cousines pour être à son chevet. Et elle se dit, finalement, pourquoi est-ce que je reçois tellement d'affection, d'attention de la part des autres ? Jusqu'au jour où Louis, en désespoir de cause, voyant que Thérèse ne guérit pas, envoie de l'argent à Paris, à Notre-Dame des Victoires, pour faire dire une neuvaine de messe pour la guérison de sa petite Thérèse chérie. Et au terme de la neuvaine, on le sait, Thérèse est guérie par le fameux miracle du sourire de la Vierge. C'est-à-dire qu'elle est dans sa chambre à Lisieux et la statue de plâtre de Notre-Dame qui est au bout de son lit semble lui sourire, lui adresser un sourire. En tout cas, Thérèse ne s'attarde pas tant sur ce sourire de la Vierge ou cette statue qu'elle a vue lui sourire que sur le fait qu'elle est très aimée. Elle est guérie, donc elle relève de sa maladie. Et en fait, Thérèse, ce jour-là, a compris que finalement, pour être aimée, il ne fallait pas nécessairement être aimable. Elle voit bien qu'elle est insupportable et que non seulement ses sœurs et son père l'aiment quand même, on pourrait dire, bon, c'est la famille, mais qu'en plus, la Vierge Marie s'est penchée sur son cas et qu'au fond, le Seigneur lui-même l'aime et l'a aimée en premier. Et là, Thérèse, ce jour-là, fait une expérience très vive du mystère de la miséricorde, qu'en réalité, on ne comprend l'amour de Dieu que quand on comprend qu'on est aimé alors que nous ne sommes pas dignes d'être aimés. Voilà. Donc évidemment, il se passe quelque chose dans le cœur de Thérèse à ce moment-là. Et donc elle se dit, j'ai compris que j'étais faite pour la gloire, je vois bien que j'ai envie de ressembler à Jeanne d'Arc, mais je suis une petite fille de 10 ans dans mon bocage normand et pour le moment, je n'ai pas eu de voix me disant de monter sur un cheval et de prendre une grande épée. D'autant que j'en aurais peut-être pas la force physique. Elle s'est dit, mais comment est-ce que je vais réussir à devenir aussi glorieuse que ces figures extraordinaires qui peuplent les livres d'histoire ? Et c'est là qu'en se creusant non seulement la cervelle, mais je crois le cœur, et puis en lisant l'Écriture sainte et en l'entendant à la messe, elle comprend qu'en réalité, la seule vraie gloire, la vraie gloire, la gloire la plus durable, c'est celle de la sainteté. Et elle voit bien que la gloire des saints sur les vitraux des églises, la gloire des saints dont on raconte la vie dans les livres, est une gloire extraordinaire, plus éclatante encore, peut-être, que celle des grands militaires. Et elle se dit, du coup, c'est ça, c'est ce pourquoi je suis faite. J'ai un désir dans le cœur de gloire qui est tellement énorme que je suis forcément faite pour la gloire la plus haute, et je vois bien que la gloire la plus haute, c'est la sainteté. Bon, saine ambition, hein, de se sentir appelée à la gloire de la sainteté. Mais néanmoins, ce n'est pas parce qu'on désire être saint qu'on le devient. Ce serait trop facile et je crois que nous le saurions tous ce soir, si c'était si simple. Et donc Thérèse qui s'est sentie très aimée, qui voit que son entourage, ses sœurs, son père, etc., l'aiment d'un amour extraordinaire, que le Seigneur l'aime d'un amour infini, se dit, eh ben, pour être sainte, sans doute, il faut aimer. Donc, je vais aimer, je vais essayer d'aimer. C'est ce qui est écrit dans l'Évangile. Et elle n'y arrive pas. Qu'est-ce que ça veut dire, elle n'y arrive pas? Évidemment, elle aime bien son père, elle aime bien ses sœurs. Et elle leur sourit quand elle est de bonne humeur. Mais justement, c'est quand elle est de mauvaise humeur qu'il faut réussir à leur sourire. Et ça, pour le coup, c'est la marche trop haute pour elle. C'est impossible, c'est littéralement surhumain. Et Thérèse va se battre avec cette incapacité à aimer, c'est-à-dire avec cette incapacité à être sainte, pendant des années. Elle a 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 13 ans et 6 mois, 13 ans et 10 mois, 13 ans et 11 mois, et puis 13 ans et 11 mois et 3 semaines. Et là, peut-être qu'elle a suffisamment bien prié, le Seigneur va lui apprendre la grande technique du combat, ouvrez bien vos oreilles, celle qui permet précisément de passer du « je choisis tout ce que je veux » à « je choisis tout ce que Dieu veut ». Vous connaissez l'histoire, je pense, mais je vais la raconter une nouvelle fois quand même. Thérèse, donc, qui a l'ambition d'aimer mais qui n'y arrive pas, sort de la messe de minuit le 24 décembre 1886 en compagnie de son papa, Louis Martin, et de sa sœur, Céline. Ils prennent le chemin de la maison, les Buissonnets, à Lisieux, et Thérèse, dans sa très jolie robe, avec son joli chapeau qu'on peut imaginer couvert de dentelle d'Alençon, frétille à l'idée que devant la cheminée, évidemment, des cadeaux l'attendent dans ses petits souliers. On s'approche de la maison, on franchit le seuil de la porte, et à cette époque-là, Louis commence à être vieillissant, assez fatigué, et il trouve quand même, hein, même s'il a beau aimer passionnément sa petite dernière, il trouve quand même que Thérèse est pas facile à vivre, fatigante et un peu puérile, il faut le dire. Parce que la toute petite fille qu'il voit frétiller à l'idée qu'elle va ouvrir ses cadeaux dans la cheminée aura tout de même 14 ans la semaine prochaine, puisque nous sommes le 24 décembre et que Thérèse est du 2 janvier. Elle aura 14 ans la semaine prochaine et Louis se dit... Les cadeaux, le petit jeu où je fais semblant d'être le Père Noël, même s'il ne se déguise pas en Père Noël, mais enfin vous voyez l'idée, ça sera terminé, j'en ai marre, je suis fatigué. Et il grince, il grogne entre ses dents, heureusement que c'est la dernière année. Sauf que Thérèse, comme souvent les petites filles, a l'ouïe très fine, et qu'elle entend son papa grogner entre ses dents, avant même d'avoir franchi le seuil de la porte, heureusement que c'est la dernière année. Louis, évidemment, n'a rien vu, rien compris, ne sait pas qu'il a été démasqué par Thérèse, mais Céline, elle, évidemment, a tout saisi. Elle connaît sa petite sœur par cœur, elle sait à quel point elle est à la fois adorable et strictement insupportable, et elle voit bien qu'ayant entendu de son père cette parole glaçante, heureusement que c'est la dernière année, ça veut dire les petites filles, c'est fini, et les cadeaux également, elle sait très bien que ça va faire une scène et que donc la soirée de Noël est fichue, qu'on va passer un moment désastreux. Au lieu de se réjouir autour de la cheminée, ça va être des pleurs, il va falloir la consoler pendant des heures comme d'habitude. Bref, un moment désagréable comme on en a si souvent l'habitude avec Thérésita. Sauf que ce que Céline attend se produit, bien évidemment, mais pas jusqu'au bout. Qu'est-ce que j'entends par là ? Thérèse, donc, folle de rage, ne dit même pas bonsoir à son père. Elle a entendu ça, c'en est trop. Elle ne se dirige pas vers les cadeaux, hors de question. Elle prend l'escalier, le chemin de sa chambre. Elle retire son chapeau qu'elle s'apprête à jeter par terre. Elle est au milieu de l'escalier et elle se dit, ils vont voir ce qu'ils vont voir, je vais foutre en l'air leur soirée. Sauf que c'est à ce moment-là qu'elle est renversée de son cheval sur le chemin de Damas par un ange au glaive fulminant qui lui tombe dessus du ciel et qui lui dit « Hop, 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 ma petite mère, toi qui veux tellement être sainte, toi qui veux tellement aimer, c'est maintenant que tu peux le faire. » Qu'est-ce qui se passe? Elle est au milieu de son escalier, elle a les larmes déjà qui lui ont rempli les yeux, elle s'apprête à crier « Je vous déteste tous !» Et qu'est-ce qui se passe? Elle décide de ravaler ses larmes, elle fait un très joli sourire, elle remet son chapeau et elle redescend l'escalier. et elle va se blottir dans les bras de son père, l'embrasser et ouvrir ses cadeaux en lui disant merci. Que s'est-il passé ? On pourrait dire scène banale, hein, une petite fille qui finalement est venue ouvrir ses cadeaux. En réalité, si on regarde, il s'est passé que Thérèse a choisi d'aimer, a décidé d'aimer, en renonçant à sa colère, à ses mauvaises humeurs, à ses pulsions dont elle n'arrivait jamais à se défaire. Elle a décidé d'aimer au point qu'elle a aimé en acte dans un moment où il était difficile d'aimer. Elle est donc passée du « je choisis ce que je veux », c'est-à-dire faire une grosse colère pour emmerder le monde, et rappeler que c'est Thérésita la patronne, à « je choisis ce que Dieu veut », c'est-à-dire, en l'occurrence, puisque Dieu nous parle toujours par des situations concrètes, faire plaisir à papa. Je choisis de faire plaisir à papa. Or, qu'est-ce qui se passe ? Elle écrit qu'à partir de ce moment-là, elle s'est sentie heureuse. Extraordinaire paradoxe de la vie chrétienne et de la vie de la sainteté, c'est en cherchant le bonheur de l'autre qu'elle trouve enfin le bonheur derrière lequel elle courait depuis des années. Et elle écrit cette chose extraordinaire des années plus tard, que cette nuit, nouveau paradoxe, elle a ressenti le besoin de s'oublier. On voit bien combien c'est paradoxal. Les besoins que nous prétendons ressentir ou connaître sont toujours des besoins qui nous servent nous-mêmes. Nous avons besoin de manger, nous avons besoin de nous faire plaisir, selon l'expression consacrée, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Nous avons besoin de briller, nous avons besoin d'être entendus. Thérèse, elle, ressent ce besoin de s'oublier. Des années plus tard également, en relisant ce petit moment fondamental de son existence, cette nuit de lumière, dit-elle, où le Seigneur l'a revêtue de ses armes, pour ça que je n'ai pas usurpé le terme de combat et de guerrière pour parler d'elle, il s'agit d'armes dont elle est revêtue par le ciel, puisqu'il faut être revêtu par les armes du Christ pour être capable de s'oublier et d'aimer les autres. Ce besoin de s'oublier, elle en parlera également avec une formule extraordinaire qui ferait mal à beaucoup des tenants aujourd'hui du développement personnel et du bien-être de soi et du moi, qui est « on ne peut faire », écrit-elle, hein, c'est Thérèse de Lisieux, docteur de l'Église, qui écrit ça, « ne me jetez pas de tomates, je n'y suis pour rien », elle écrit « on ne peut faire strictement aucun bien lorsqu'on se recherche soi-même. » Phrase qui, personnellement, me glace le sang. Parce que je vois bien combien de fois par jour je me recherche moi-même. En recherchant l'approbation dans le regard des autres, en recherchant des compliments, en recherchant à combler aussi mes pulsions et mes passions, les passions qui me traversent. Mais Thérèse a cela d'extraordinaire que très tôt, donc à tout juste 14 ans, elle a mis le doigt sur la grande technique du combat spirituel, du combat pour la sainteté. Et elle dit qu'à partir de cette nuit de lumière-là, elle a volé de victoire en victoire. Et sa petite aspiration à la vie carmélitaine qui avait commencé à surgir dans les années précédentes, j'en ai pas parlé parce qu'on ne peut pas tout dire en détail, mais qui avait commencé à surgir dans les années précédentes, en réalité devient concrète aussi ce soir-là. Parce qu'elle voyait bien que c'était glorieux d'entrer au Carmel, mais en réalité elle n'en avait pas le vrai désir. Pourquoi ? Parce que rentrer au Carmel, c'est pénible. On est cloîtré, passe sa journée à prier, il n'y a plus beaucoup de consolation matérielle. Bah, si on se recherche soi-même et si on cherche à contenter ses besoins personnels, c'est franchement pas le lieu idéal. Mais si on cherche à vivre pour les autres, à donner sa vie pour ceux qui nous entourent, alors c'est peut-être le lieu idéal. Néanmoins, Thérèse veut vérifier une dernière chose, c'est quand même que la prière est efficace. Parce que si on s'enferme au Carmel et que ça ne sert à rien de prier, c'est ballot. Et c'est là, au printemps 1887, donc dans les mois qui suivent l'extraordinaire nuit de Noël, à partir de laquelle elle se met à être gentille et à renoncer à ses colères, miracle, C'est dans ces mois-là que viendra un deuxième miracle extraordinaire, qui est celui de la conversion de Pranzini sur l'échafaud. Je n'ai pas le temps de vous raconter toute l'histoire, malheureusement, mais vous pourrez aller voir dans des livres. Thérèse va avoir la preuve, la marque absolue, qu'un criminel terrible peut se convertir, y compris à la dernière seconde. Et donc, finalement, ce qu'elle voit, c'est que ce qui est écrit dans l'Évangile, en particulier la conversion du bon larron, ça n'est pas des balivernes. Ce n'est pas juste une très vieille histoire d'il y a 2000 ans sur le Golgotha. Ça continue de se produire dans la vraie vie, dans ce monde que nous connaissons et fréquentons. À partir de là, à partir de la conversion de Pranzini à la prière de la petite Thérèse, elle n'a plus qu'une idée, c'est de rentrer au Carmel. Vous le savez, ça va être difficile. Elle dit qu'elle va faire la conquête du Carmel à la pointe de l'épée. Elle dit que le Seigneur ne lui inspirerait pas de tels désirs, les désirs qu'elle ressent, s'il ne voulait pas les combler. Mais malheureusement, sur le chemin du Carmel, il y a plus d'épines que de roses, puisque tout le monde s'y oppose, et son père, et sa famille, y compris ses sœurs qui sont au Carmel, y compris le supérieur du Carmel, l'évêque, bref, tout le monde. Elle finira, vous le savez, par aller voir le pape, par se jeter à ses genoux. J'aurais adoré vous raconter l'anecdote, mais je vois que mon temps est écoulé et que le frère me fait des grands signes, enfin, plus ou moins. Mais bon, tout cela est raconté dans mon livre. Je ne fais pas ça pour faire de la promo, mais c'est vrai. Néanmoins, je voudrais quand même vous dire encore deux choses. Une fois entrée au Carmel, après avoir fait la conquête à la pointe de l'épée, elle écrira au bout de quelques années le récit extraordinaire de sa vie que sont les manuscrits autobiographiques, et elle y déclarera en particulier la grande découverte de sa vocation à l'amour, réalisation extraordinaire, suprême de son « je choisis tout » originel. Pourquoi ? Parce que dans sa vocation à l'amour, Thérèse n'a pas peur d'écrire qu'elle veut être prêtre, mère de famille, zouave pontificale, diacre, parce que prêtre c'est bien, mais saint François d'Assise il était que diacre, donc diacre c'est peut-être mieux que prêtre en fait, parce que c'est un des plus grands saints de l'histoire, docteur de l'église, martyr, carmélite, ça finalement elle y parviendra, et bref elle fait la liste de pasteurs, elle fait la liste de tout ce qu'elle désire, et en réalité elle continue de tout désirer. Comment va-t-elle réussir à nouveau à apaiser, à assouvir ce « je choisis tout » en choisissant d'être l'amour? Alors là encore, on peut dire un bien grand mot de dire « je suis l'amour », parce que l'amour infuse tous les membres de l'Église, donc si je suis l'amour, je permettrai au docteur d'être docteur, au maire de famille d'être maire de famille et au prêtre d'être prêtre. Très bien. Sauf qu'elle a compris qu'en réalité, l'amour se vivait de manière concrète dans l'épaisseur de nos vies et dans les choses minuscules. Autre immense découverte de Thérèse, qui n'est pas docteur de l'Église pour rien. Elle est docteur de l'Église pour plein de raisons, mais là encore, je n'ai pas le temps de tout vous dire. Mais elle est docteur de l'Église aussi parce que par sa vie, elle nous a enseigné à être chrétien. En regardant la vie de Thérèse, on apprend à être chrétien. Vous voyez, en regardant la vie de Mère Thérésa, on peut être ébloui, on peut aussi apprendre à être chrétien d'une certaine manière, mais on voit bien que c'est difficile du jour au lendemain de partir dans les faubourgs de Calcutta et aider les chiffonniers du Caire. Alors que Thérèse de Lisieux, elle nous apprend à vivre le combat absolu et glorieux de l'amour dans une cuisine et en faisant le repassage. Bon, ça, c'est quand même assez merveilleux. Parce qu'elle met la sainteté la plus haute, pas demain, mais aujourd'hui même, avec ce que j'ai à faire tout de suite devant moi. Bref, comment va-t-elle réussir à accomplir ce « je serai l'amour, je choisis tout, je serai l'amour » ? Elle va y arriver, évidemment, pas par ses propres forces. Le génie absolu, paradoxal de Thérèse, c'est de dire « je veux tout, je veux être l'amour, je veux être sainte, je choisis tout, mais je ne suis capable de rien, qu'est-ce qu'il y a entre deux ? Je vais laisser Jésus faire à ma place. » C'est ça la petite voix. Concrètement, la petite voix, je vais vous lire le passage, non, j'ai pas le temps, je vais vous le dire plutôt. La petite voix, c'est le chemin tout droit qu'elle a trouvé, elle a dit « moi, je n'ai pas la force ». de monter au haut degré de sainteté, je n'ai pas la force d'être saint François d'Assise, donc on va trouver une technique moderne. Elle n'est pas du tout anti-moderne, Thérèse, elle adore la modernité. D'ailleurs, vous avez remarqué que l'UNESCO a choisi deux Français cette année pour honorer la France, Thérèse de Lisieux et Gustave Eiffel. Et en fait, Thérèse de Lisieux et Gustave Eiffel, ils ont tous les deux inventé des choses très modernes qui permettent de s'élever très haut vers le ciel. La tour Eiffel et la petite voie. Sauf que la petite voie, évidemment, permet d'aller beaucoup plus haut que les 300 mètres de la tour Eiffel. Mais ça, Gustave ne le savait pas. Et Thérèse, elle invente la petite voie. Qu'est-ce que c'est la petite voie? C'est l'ascenseur des bras de Jésus. Elle a lu dans la Bible que le Seigneur allait nous prendre sur ses mains et nous poser sur ses genoux. Eh bien, elle dit, Seigneur, je n'ai pas la force d'être sainte, je n'y arrive pas. Prends-moi dans tes mains, monte-moi vers tes genoux et fais-moi sainte par tes mérites. Et concrètement, elle va rejouer toute sa vie pendant ses années au Carmel, pendant 9 ans, jusqu'à sa mort à 24 ans. Elle va rejouer d'une certaine manière ce qu'elle a vécu pendant la nuit de Noël 1886. C'est-à-dire qu'à chaque instant où elle aura l'occasion d'aimer en renonçant à elle-même, elle va le faire par la grâce de Dieu. Elle se rend bien compte que ça ne vient pas d'elle. Pourquoi ? Parce que pendant 14 ans, elle a essayé et elle n'a pas réussi. Le jour où le Seigneur lui a donné la grâce de le faire, elle y est parvenue. Et comment ça marche de saisir la grâce de Dieu ? Il suffit d'incliner sa volonté. Il suffit de dire « Ok, je vais le faire ». Un dernier exemple, et ensuite j'arrête, promis mon frère. Il y avait entre des milliers d'exemples. Hein. Et vous voyez ce réalisme de Thérèse. Elle dit finalement « On est très ambitieux, on veut être une grande sainte sur un champ de bataille, mais on va faire des choses à notre mesure. » Et elle écrit cette phrase géniale « Avant de mourir par le glaive, mourons à coups d'épingle ». Eh bien, les épingles de Thérèse, qu'est-ce que ce sera en l'occurrence? Par exemple, au Carmel, dans la chapelle où elles font oraison une heure le matin, une heure le soir, elle était placée à côté d'une religieuse qui grinçait des dents et qui faisait un petit bruit humide avec la bouche. Pendant une heure, tous les matins, tous les soirs. Résultat, impossible de prier, impossible de se concentrer, et surtout, impossible de ne pas être hors de soi, de dire « mais qu'est-ce que c'est que cette emmerdeuse qui m'empêche de prier? Qu'est-ce que je fais là? Je deviens dingue. Quel est le sens de ma vocation ?» Et en même temps, elle se dit « mais j'essaye de ne pas entendre. » Alors, pendant plusieurs semaines, elle essaye de ne pas entendre, ça ne marche pas. Bon, les boules caisses n'avaient pas été inventées. Ensuite, elle se dit « je vais peut-être dire un mot à la sœur dans le couloir en lui disant qu'elle fait un bruit de bouche. » Elle dit « mais non, parce qu'en fait, elle ne fait pas exprès, elle est comme ça. C'est simplement que sa bouche fait du bruit. Bon, c'est insupportable, mais je ne peux pas lui dire, ça va être une crucifixion pour elle. » Et c'est là qu'elle trouve la voie de l'amour, ahurissante, surnaturelle. Elle se met à aimer la sœur. Et sa prière, ça devient non plus d'essayer de se concentrer sur l'évangile du jour en oubliant les bruits de bouche, ça devient d'écouter les bruits de bouche au maximum. Et de se dire « ah, mais Jésus, c'est elle que tu me demandes d'aimer. Eh bien, j'aime les bruits de bouche. » Et quand elle croise la sœur dans le couloir, elle lui fait de ravissants sourires, elle est adorable avec elle. Il y a une autre sœur qu'elle ne pouvait pas sentir, il y en a plein qu'elle avait du mal à sentir, bon bref, mais elle est adorable avec tout le monde, parce qu'elle a compris que c'est ce que le Seigneur nous demandait. Et après sa mort, l'une des sœurs, que Thérèse avait pourtant du mal à sentir, dira « je n'ai jamais compris pourquoi j'étais sa préférée. » Voilà. On pourrait dire « est-ce que c'est hypocrite ?» Que nenni. C'est hypocrite si on n'a pas compris ce que c'était que l'amour. Si on croit que l'amour, c'est un sentiment, ça veut dire avoir un épanchement naturel pour quelqu'un. L'amour, ce n'est pas ça, c'est vouloir le bonheur de l'autre. Et bien, Thérèse nous apprend à mener à chaque instant ce petit combat de l'amour dans ce qui nous est donné de vivre aujourd'hui, ici-bas. Aujourd'hui, donc, Thérèse jouit du bonheur du ciel. Elle a dit peu de temps avant de mourir que elle consentait même à ce que sa vie soit très longue. Quelle générosité, parce qu'elle avait envie d'aller au ciel tout de suite. Bon, finalement, elle a été exaucée. Mais elle dit « je consens même à ce que ma vie soit très longue. La seule grâce que je désire, c'est qu'elle soit brisée par l'amour. » Eh bien, aujourd'hui, je crois que, comme elle l'avait promis en disant « ma mission va commencer », Thérèse continue au ciel d'être brisée par l'amour. Alors, c'est, sans doute, ce n'est plus douloureux. Mais elle reste au combat, comme elle l'avait promis. Il y a des exemples extraordinaires, là encore une fois, que je raconte dans mon livre, mais que je n'ai pas le temps de développer, sur la manière dont elle a converti Edith Piaf en la guérissant, dont elle a aussi fait un petit miracle pour ma propre grand-mère. En tout cas, n'ayons pas peur de demander à Thérèse des roses, même si, comme elle, nous savons qu'il y a plus d'épines que de roses ici-bas. Il nous faut apprendre à réapprendre, et c'est le thème de ce pèlerinage cette année, comment bâtir l'Église de demain. Eh bien, je crois que cela ne pourra passer que par le combat de l'amour. pour que nous puissions dire avec Thérèse au soir de notre existence terrestre, comme elle l'a dit le 30 septembre 1897, avant de monter au ciel, « Je ne me repens pas de m'être livré à l'amour. Oh non, je ne m'en repens pas. » Je vous remercie.
Je vois qu'un Parisien ne pouvait pas s'empêcher de parler de la Tour Eiffel, quand même. Non, merci beaucoup, Jean, d'avoir humanisé la figure de Sainte Thérèse. Les saints, parfois, nous paraissent tellement loin, tellement inaccessibles, et tu nous as donné de la connaître de manière beaucoup plus humaine, accessible, intime. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions?
Oh oui,
encore, allez-y.
Oui.
Nous avons 8 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en doute pas. Levez la main bien haut. Des questions sur Sainte Thérèse, sur ses propos? C'était complet.
C'est pas obligatoire les questions. Moi, je vais aller prendre un coca s'il n'y a pas de questions. Ça me va bien, mais. Mais n'hésitez pas malgré tout. Je vais me livrer à l'amour 5 minutes de plus. Ah oui.
Ah. Manifestez-vous parce que vous êtes nombreux.
C'est juste une remarque pour dire à quel point ce que dit Sainte Thérèse nous élève, qu'à partir du moment où elle s'est oubliée pour faire plaisir aux autres, c'est depuis lors qu'elle fut heureuse. Et c'est tout l'inverse des refrains que nous entendons très souvent. Prends soin de toi, pense à toi, prends du temps pour toi, tu es le centre, c'est avec tes yeux que tu vois le monde, avec tes oreilles, tu es le centre du monde. Et ça nous écrase.
Merci. Oui, c'était pas vraiment une question, mais je souscris tout à fait à ce point-là.
Comment on peut dire, avec la souffrance qu'elle a eue, parce qu'elle a énormément souffert, qu'elle ait pensé quand même aux autres? Moi, c'est ça qui m'interpelle. Je me dis, quand on a très mal, hein, on oublie un peu les autres. Alors, mais c'est pour moi personnellement, j'ai une idée, je me dis, tu as mal, mais je l'ai dans ma famille, y en a qui ont plus mal que toi et qui ne se plaignent pas. C'est pour ça que j'adore Thérèse de Lisieux, parce qu'elle sait vraiment, tant pis, j'ai mal, mais je préfère les autres.
Alors, Thérèse, elle a quand même beaucoup dit qu'elle avait mal, hein. Elle est très réaliste. Dans ses derniers entretiens, les derniers mois de sa vie, elle a dit et redit que la souffrance était insupportable, qu'on n'avait pas le droit d'en parler tant qu'on ne l'avait pas vraiment vécu, que les gens qui parlaient de la souffrance sans savoir ce que c'était, il n'y avait rien de plus insupportable, infernal. Donc elle n'est pas doloriste, elle ne fait pas semblant, et d'ailleurs ça rejoint ce que je disais au début, sur notre monde comme une terre d'exil, comme une vallée des larmes, un lieu où nous ne sommes pas réellement, non seulement heureux, pleinement heureux, nous ne sommes pas encore comme au ciel, mais surtout un monde qui ne correspond pas à ce pourquoi nous nous sentons le plus faits, c'est-à-dire la jouissance. Hein. Et ça, Thérèse n'a pas peur de le dire, elle est faite pour jouir, et elle est faite pour ne plus jamais avoir mal. Non seulement pour ne plus jamais avoir mal, mais pour un bonheur intense et infini, éternel. Donc elle a dit qu'elle avait mal, elle ne supporte pas la souffrance. Mais en revanche, sa compréhension du mystère de ce monde où l'amour est blessé par le péché fait qu'elle accepte, comme Jésus sur la croix, de vivre sa souffrance non pas comme un dolorisme, c'est-à-dire où la douleur ou la souffrance aurait un sens en elle-même, mais comme une offrande pour la rédemption du monde, comme une participation aux souffrances du Christ, comme c'est ce qu'écrit saint Paul, c'est ce qu'a écrit Blaise Pascal aussi énormément dans sa prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies. Et donc on voit bien qu'il ne faut pas confondre l'irréalisme, de ceux qui pensent qu'on peut être livré à l'amour parfaitement en oubliant que nous avons un corps. Ça n'existe pas. Les saints n'oublient pas qu'ils ont un corps. Sinon, ça ne serait pas des hommes. Les hommes, c'est un corps et une âme, mais pas seulement une âme, contrairement à la tentation de certains spiritualismes, là, justement, pour le coup. Mais si cette souffrance n'a pas de sens, puisqu'elle n'est pas voulue par Dieu, elle peut être transfigurée par l'amour. Et finalement, ce qui nous fait le plus souffrir, hein, c'est peut-être pas non plus la souffrance, disons par exemple, physique qui s'abat sur nous, mais c'est aussi souvent et surtout, sans doute, le fait d'être séparé de l'amour, coupé de l'amour. Et donc Thérèse a bien saisi qu'il n'y avait que dans l'amour qu'elle pourrait supporter même cette souffrance insupportable.
Bonjour. Bonjour. Oui, alors c'était pour dire que je suis allé donc au sanctuaire de Sainte Thérèse de Lisieux. Et à un moment donné, je crois que c'est un prêtre qui parlait de ce qu'il appelait l'ACA de Sainte Thérèse. L'ACA. L'ACA de Sainte Thérèse. Bon, il disait avec pas mal d'humour que ça n'avait rien à voir avec l'ACA du rugby.
Là, j'ai l'ACA. Pas entendu.
ACA.
L'INCA.
ACA. A-C-A.
L'ACA.
Oui. Bon, j'explique. Donc, A pour amour, C pour confiance et A pour abandon.
Ah oui, oui, tout à fait. En effet, ça va ensemble puisque Thérèse a dit cette phrase extraordinaire. C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Et puis, elle a écrit évidemment son acte d'offrande à l'amour miséricordieux qui est aussi un acte d'abandon. Et la confiance, rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour, j'en profite pour glisser que Thérèse est aussi extraordinaire pour nous prémunir du scrupule. Cette phrase si célèbre de Thérèse, c'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour, n'est pas du tout une petite phrase désincarnée d'un joli spiritualisme pour faire joli dans la basilique de Lisieux. Pas du tout. C'est dans une lettre qu'elle écrit à sa cousine Marie, qui était allée à l'exposition universelle à Paris, qui avait vu des tableaux avec des hommes et des femmes nus, et qui, depuis, avait plein de pensées lubriques, et du coup, elle avait mauvaise conscience, et elle n'osait plus aller communier à la messe. Et Thérèse, là, je peux vous dire, elle est radicale contre l'esprit janséniste ou puritain qui pourrait nous saisir parfois dans le catholicisme. Elle dit, mais tu n'as absolument rien compris, non seulement à l'amour du Seigneur, mais à ce qu'il attendait de toi. Et donc, elle dit, cours à l'autel, va communier, et arrête de croire que c'est parce que tu es prise par des pensées que tu trouves impures, que le Seigneur ne t'aime plus, ne veut plus de toi, ou que tu ne peux pas t'approcher de sa table. Il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Donc, il t'aime, voilà. Parce que tu es pécheresse, il t'aime aussi. Hein. Et en tout cas, elle-même avait vaincu les scrupules. Là, elle avait été saisie de la maladie du scrupule elle-même, hein, dans l'enfance et au début de l'adolescence. Et donc, cette confiance indissociable de l'amour, c'est également la grande réponse à certaines tentations que nous avons par un excès dévoyé, mal ajusté de religiosité. Je pense qu'il ne faut aussi pas toujours confondre une certaine religiosité ou même une certaine superstition avec ce qu'est la vie chrétienne authentique. Et ça, Thérèse nous apprend bien à nous prémunir de cette forme d'idolâtrie que nous avons, l'idolâtrie du geste parfait, du mot parfait.
Merci pour votre réponse. J'aurais juste une petite dernière question. Bon, si vous pouvez répondre brièvement là-dessus. Bon, après, j'ai acheté le livre de Sainte Thérèse, l'histoire d'une âme, donc bon, je sais bien qu'il faut que je le lise déjà. Mais est-ce que vous savez quelle différence, s'il y en a une, faisait Sainte Thérèse entre la confiance et l'abandon ?
C'est une bonne question. C'est que la confiance permet l'abandon. Chronologiquement, pour s'abandonner, il faut faire confiance. En réalité, un abandon, un saut dans le vide pur et dur, ne serait pas un acte chrétien. Voilà. On peut s'abandonner à l'amour de Dieu que quand on a reconnu que c'était dans son amour que nous serions heureux, en réalité. Il ne faut pas s'abandonner pour s'abandonner. Voilà, mais on s'abandonne parce qu'on fait confiance et parce qu'on sait, hein, ça c'est la fameuse petite voix. C'est en devenant le plus petit enfant qu'on deviendra le plus grand guerrier des armées célestes, parce qu'en fait, on sait que le Seigneur combat mieux que nous dans l'ordre de l'amour.